RFI, grand reportage, Charlotte Hudrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Centrafrique. Depuis la fin novembre, l'est du pays est à nouveau un champ de bataille. Plusieurs factions de l'ex-Séléka s'affrontent. Le FPRC de Noureddine Adam et Abdoulaye Sène, allié au MPC et au RPRC, regroupés au sein d'une coalition, affronte l'UPC d'Ali Darras. Les combats ont commencé à Bria le 26 novembre, puis se sont déplacés vers le sud en direction de Bambari, fief de l'UPC. La ville, chef-lieu de la préfecture de la Waka, a failli tomber aux mains de la coalition en février, mais la MINUSCA, qui craint par-dessus tout une bataille dans Bambari, s'est interposée. Aujourd'hui, Bambari semble hors d'atteinte pour la coalition, mais les affrontements se poursuivent dans toute la région, un conflit qui revêt des enjeux économiques, politiques, territoriaux, mais aussi ethniques. La bataille de la Waka, c'est un grand reportage signé Pierre Pinto.
Bambari le 12 mars 2017, à la tête d'une importante délégation de ministres, de diplomates, de représentants de l'ONU et de la Banque mondiale, le président Faustin Archange Touadéra, sur le parvis de l'hôtel de ville, s'adresse aux habitants.
La préfecture de la Waka et les préfectures voisines sont devenues le sanctuaire des 12 armées qui régnaient en maître. Vous avez souffert, vous avez perdu des êtres chers. Je suis venu vous dire que cette situation, nous devons la considérer derrière nous. Puisque j'ai décidé, avec le peu de moyens dont dispose l'État, de rétablir l'ordre et la sécurité dans la Waka, avec l'appui de la MINUSCA, pour vous protéger et sécuriser la ville de Bambari tout entière. Plus jamais, vous ne serez seul.
Quelques jours auparavant, des fonctionnaires, 4 magistrats et une trentaine de gendarmes ont fait leur retour à Bambari. La ville est un symbole pour les autorités centrafricaines, celui du retour de l'État sur un territoire abandonné depuis plus de 4 ans aux groupes armés. Abel Machipata est le maire de Bambari.
C'est depuis décembre 2012 que les groupes armés ont investi notre ville jusqu'à maintenant. L'autorité de l'État avait complètement disparu. Donc la ville était gérée par les groupes armés qui fixaient des taxes à tous les commerçants, qui érigeaient des barrières illégales. Sur ces barrières, eh bien, ils rançonnaient tout ce qui passait avec les motos et les véhicules. Donc c'est eux qui étaient les maîtres de la ville.
Tout est à reconstruire ici. Administration en lambeaux, services publics inexistants, justice à l'arrêt et aucun moyen. Les juges sont logés à la gendarmerie et les gendarmes à la MINUSCA. Pas d'ordinateur dans les bureaux, mais d'antiques machines à écrire. La salle d'audience du tribunal sert d'entrepôt, mais surtout, il faut réapprivoiser une population livrée à elle-même depuis 4 ans. Jean-Aimé Ouattanji-Odro est le président du tribunal de grande instance de Bambari.
En ce qui concerne l'accès à la justice, c'est difficile pour les parties de venir voir les magistrats parce qu'elles ont peur des représailles de part et d'autre. Quand nous travaillons, nous ne sommes pas en mesure de déployer les services de la chaîne pénale, c'est-à-dire envoyer la gendarmerie. Si la gendarmerie parvient à se redéployer dans toute la ville, ce sera un ouf pour la justice. Nous sommes en train de tout recommencer à zéro. Parce que quand les rebelles avaient attaqué Bambari, tous les services d'État ont été vandalisés, saccagés et la justice n'a pas été épargnée.
L'État centrafricain a obtenu 6 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour le développement de Bambari et sa région, et attend l'aide d'autres partenaires internationaux. Pour le président Faustin Archange Touadéra, Bambari doit être un laboratoire de la renaissance du pays.
Le retour de l'autorité de l'État est progressif. Tout dernièrement, il y avait 30 gendarmes, mais il y a une montée en puissance. Le travail sur Bambari est assez symbolique, mais c'est important. Il n'y a pas que les forces. Il y a aussi, disons, les services essentiels de base, notamment la santé, l'éducation, la route, la justice, tout ça que nous déployons sur Bambari pour faire de Bambari une ville pilote et une ville sans groupe armé et sans armes.
Depuis 4 ans, Bambari est coupée en deux, la rivière Waka servant de frontière entre communautés. La rive droite est le territoire des Antibalaka, où vivent des chrétiens et où longtemps les musulmans ne s'aventuraient pas. Sur la rive gauche, fief d'Ali Darras, le centre-ville et des quartiers chrétiens et musulmans. Il y a 2 mois, alors que Bambari était l'objectif déclaré de la coalition FPRC-MPC-RPRC qui voulait en déloger l'UPC d'Ali Darras, la MINUSCA a entamé des discussions discrètes avec ce chef de guerre. Le 21 février, Ali Darras et la majeure partie de ses hommes acceptent de quitter Bambari. Depuis, ils circulent dans les préfectures de la Waka et de la Basse-Kotto. À Bambari, les habitudes prises pendant la crise sont toujours là. Rares sont les habitants qui osent franchir le pont vers la rive droite. Le marché central, autrefois théâtre d'attaque, demeure déserté par les commerçants. La peur est toujours palpable, malgré les patrouilles conjointes MINUSCA gendarmerie destinées à rassurer la population. Pourtant, l'atmosphère a changé depuis que les groupes armés ont disparu du paysage. Anissé vit sur la rive gauche.
La population commence à souffler un tout petit peu parce qu'il n'y a plus d'armes. Mais à côté, dans les alentours, il y a toujours des actions qui continuent. Mais la population est en train de souffler un bon vent pour l'instant, en attendant qu'on va voir les choses qui vont venir.
Bambari, ville sans groupe armé, peut-on lire sur des banderoles déployées en ville. Mais si les hommes armés ont quitté les bâtiments officiels et ne sont plus visibles dans les rues, leur chef l'affirme, ils sont toujours là, prêts au combat si nécessaire. Hassan Bouba Ali est le coordinateur politique de l'UPC. Il vit toujours à Bambari, comme plusieurs dizaines de ses combattants, disséminés dans les quartiers musulmans Hadji ou Borno.
Il y a 200 personnes bien armées avec leurs armes et leurs explosifs dans les quartiers, dans une famille d'Akir, dans l'IPC, avec des enfants, avec des femmes. Donc c'est très compliqué pour la vie à Bambari. Et maintenant, on a essayé avec la MINUSCA pour établir un programme de regroupement ou de cantonnement dans Bambari.
Après Ali Darras, les autres leaders locaux de groupes armés ont dû quitter la ville à leur tour. C'est le cas du chef des anti-Balaka, Gaëtan Boadé, qui s'est installé dans un petit village à une quinzaine de kilomètres vers l'ouest.
On a accepté par rapport à la décision de MINUSCA. J'ai mobilisé mes éléments de ne pas faire les désordres dans la ville de Bambari. Si le conflit traverse à la rive droite, là, je peux me présenter par rapport à mon population.
Dans son proche exil, le général Gaëtan a accueilli son nouvel ami Soumaïn Dogueba, alias général Tarzan, chef local du RPRC. Ennemi d'hier, les deux hommes devenus inséparables font cause commune contre l'UPC.
J'ai demandé à mon frère, le général Gaëtan, de nous accorder à traverser vers ici pour garder toujours notre dignité. Nous avons nos éléments dans la ville. La MINUSCA les a demandé de rester sans tenue, sans armes. Ils se confondent comme les civils. Bon, un matin comme ça, l'un du général Ali Darras nous a appelé que si les éléments de FPRC de Biria ont touché leurs éléments, automatiquement ils lancent une offensive sur nous, les FPRC de Bambari, de la communauté Goula.
Bambari est un enjeu stratégique majeur pour les belligérants. Qui contrôle Bambari contrôle la route vers le Soudan et les revenus liés au commerce du café, du bois, de l'or et des diamants du quart sud-est de la Centrafrique. La coalition affirmait au départ vouloir prendre la ville pour en chasser Ali Darras, qui y avait établi son QG et qui rayonnait sur toute la région depuis 4 ans. Mais même Ali Darras sorti de Bambari, la ville reste un objectif, explique le porte-parole du FPRC, Aboubakar Sidik.
Si l'UPC reste à Bambari, Bambari reste l'objectif toujours. La guerre que nous menons, ce n'est pas seulement pour répondre à la ville de Bambari. La ville de Bambari, ce n'est pas seulement le seul objectif. Pour nous, c'est de guerpiller Ali Darras hors de la République centrafricaine, ou soit arrêté, ou soit qu'il laisse la territoire centrafricaine tranquille.
L'obsession du FPRC et de ses alliés, mettre la main sur les troupeaux de bovins des Peux, les prendre Bambari pour proclamer une nouvelle fois la sécession de l'Est de la Centrafrique, rétorque Souleymane Daouda, le porte-parole de l'UPC.
Ils disent qu'ils ne réussissent pas à reprendre le pouvoir par la force, il faut diviser le pays. Et la position de l'UPC les empêche de faire la partition du pays. Comme ils ont tenté de négocier avec nous, de nous ramener derrière leur plan machiavélique, on a refusé. Ils ont utilisé tous les moyens maintenant pour nous combattre et récupérer notre position afin de mettre en application leur plan.
Bambari a fait l'objet de plusieurs offensives de la part des éléments de la coalition, chaque fois repoussées par la MINUSCA, qui affirme qu'aujourd'hui, dans les environs immédiats de la ville, la menace est stabilisée. Il faut sortir de Bambari pour toucher du doigt la guerre que se livre depuis 4 mois la coalition et l'UPC. Presque quotidiennement, le contingent mauritanien de la MINUSCA sillonne la route qui relie la ville d'Ipi à 110 km vers le nord-est. Sur cet axe ce jour-là, 7 barrières aux mains des groupes armés.
Ça c'est une barrière, tu vois, ça c'est la barrière de l'UPC. C'est une ville qui s'appelle Takbara, 43 km d'Ipi.
L'essentiel de l'axe est aux mains de l'UPC, mais en arrivant à Ipi, on entre en zone FPRC.
C'est les anti-Balaka, première barrière à la rentrée d'Ipi.
Parmi les alliés de circonstance du FPRC dans sa guerre contre l'UPC, les anti-Balaka se sont vus confier les tâches subalternes comme le contrôle des entrées d'Ipi. Mais en ville, les hommes lourdement armés sont partout, parfois juchés sur des pick-up équipés de mitrailleuses. Les combattants de la coalition se sont installés dans des bâtiments officiels, mais surtout dans les maisons, disséminées parmi les habitants. Le capitaine Mohamed du contingent de casque bleu mauritanien nous embarque dans son blindé.
Ça, c'est une grande, grande base. Il y a deux Toyota, il y a plus de 10 moteurs, il y a 50 ou 60 éléments ici. Ça, c'est la deuxième base. Regarde, regarde, regarde les sentinelles. Tu vis la calache. Il y a un autre calash. Ça, c'est le changement de poste, le relève. Ça, le bureau de suppression. Et ça, le PC du PRC. Il y a une base derrière pour les soldats. Il y a deux bases ici. J'ai une armée, c'est partout.
Ipi, 15 000 habitants autrefois, est un carrefour stratégique pour les groupes armés qui veulent contrôler la Ouaka et les préfectures voisines. La ville est la clé des routes vers Bria au nord-est, vers Bambari au sud et vers Bakala et les mines d'or de Ndassima à l'ouest. Le 11 février, Ipi est tombé aux mains de la coalition au terme de violents combats avec l'UPC dont on ignore le bilan. Des combats qui ont coûté la vie à Joseph Zoundeko qui conduisait l'assaut. Zoundeko, l'un des leaders historiques de l'ex-Séléka, avait un temps établi ses quartiers à Bambari et ses relations étaient notoirement mauvaises avec Ali Daras.
Le 11 février, c'est le samedi, à 16h, il commence l'attaque. Plus de 400 bonhommes, 9 véhicules Toyota. Zoundeko, il est mort ici, avec son garde-corps. Le chef du FPRC, il est mort ici, mort dans l'attaque.
Ce jour-là, la poignée de casques bleus mauritaniens sur place n'a rien pu faire pour s'opposer à l'offensive. Les lignes rouges, alors établies par la MINUSCA, n'ont servi à rien. Un détachement plus important est arrivé quelques jours plus tard, avec à sa tête le commandant Brahim Nebara. Il a installé son camp dans l'ancienne gendarmerie, à 70 mètres à peine des premières positions de la coalition, avec qui les relations sont glaciales.
La ligne rouge a été fixée avant à 15 km d'ici. Maintenant, il n'y a pas de ligne rouge. Toutes les lignes sont maintenant blanches. Pas de ligne rouge. Vers Bombari, il y avait une limite là-bas de 25 km. Il y a une position gabonaise. Maintenant, normalement, c'est tel qu'il y a les consignes de les arrêter ou de les laisser. Nous, on est là, prêts à, en plus, on surveille et on patrouille.
À Ipi, le climat est électrique. Chaque nuit, les coups de feu claquent. Pour autant, les exactions sont rares en ville. Beaucoup plus fréquente en revanche dès que l'on s'en éloigne.
La sécurité hors de la ville, elle est trop faible. Parfois, l'antibalaka tue des gens de l'UPC ou les gens du PC, parfois tuent les autres dans les villages. Souvent, on a transporté des cadavres trouvés chez l'ex, on a transporté des blessés vers les hôpitaux. On suit la situation de près. Et comme vous voyez, on est là au centre-ville, notre dispositif est bien présent. On circule dans la ville comme on veut, on fait notre mission correctement.
Les combats entre la coalition et l'UPC ont aussi fait rage ces derniers mois dans d'autres localités, comme Bakala ou autour des mines de Ndassima, au nord de Bambari. À chaque fois, impossible d'établir un bilan humain fiable, mais les déplacés se comptent par milliers. Abou Bakri Tall, coordonnateur humanitaire par intérim des Nations Unies.
Il y a eu une période, à deux reprises, quand les risques étaient importants que le FPRC pourrait essayer d'engager la bataille à l'intérieur de la ville même. Les mouvements des humanitaires ont été restreints pendant une bonne période. Ils ont été restreints également sur les axes. Par exemple, au-delà de Ipi, il était difficile de traverser les lignes de front, entre guillemets, qui étaient déjà en place. Il y a eu des batailles autour de Ndassima et sur la partie un peu nord-nord-ouest de Bambari. Ces événements et l'intervention de la MINUSCA seraient à l'origine des nouveaux déplacements de 26 000 personnes à l'intérieur de Bambari.
Retour à Bambari. Des nombreux sites de déplacés ont accueilli ces dernières semaines de nouveaux venus arrivés de Bakala, Ndassima, Ipi et des localités alentour. Jean Prudence vient d'un village situé à une vingtaine de kilomètres d'Ipi. Il dit avoir fui à cause de combattants peuls, des hommes armés qui ont changé d'attitude à mesure que l'UPC perdait du terrain.
Les hommes armés qui contrôlent la zone nous ont dit « Gare à ceux qui quitteront le village pour aller à Ipi ». Ils pensaient qu'on pouvait rejoindre le FPRC. Ipi est plus proche, mais c'était moins dangereux pour nous d'aller à Bambari.
En février, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a documenté un massacre commis dans la localité de Bakala en décembre et attribué à l'UPC. Une trentaine d'habitants exécutés lors d'une réunion dans une école. Ce jour-là, Michel a perdu trois fils.
Ils avaient 30, 25 et 15 ans. L'UPC a convoqué les hommes de la population à une réunion dans une école. Ils promettaient de fournir des armes pour protéger leur famille contre les attaques du FPRC. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont fermé les portes et ont attrapé les gens. La tuerie a commencé dans la salle de classe. Ensuite, certains ont cherché à se sauver. mais ils ont été abattus. Il y avait des cadavres partout devant l'école.
Des accusations graves balayées par l'UPC. Son porte-parole, Souleymane Daouda.
Nous, nous rejetons en bloc ces accusations. Qu'est-ce qui se passe dans la région? C'est une coalition qui nous est attaquée. Donc, c'est des agresseurs. Et ces agresseurs, ils ont des complices parmi quelques populations civiles et surtout les élus tels que les députés. C'est eux qui véhiculent ces genres d'informations mensongères. Les éléments de l'UPC sont en treillis. Eux, ils ne s'attaquent pas aux civils. Et la coalition ne fait pas la différence entre les éléments de l'UPC et les civils Peul. Ils attaquent aussi les campements Peul pour voler le bétail, pour tuer des femmes et des enfants. Et quand ils vont attaquer ces campements Peul, ils sont guidés par une partie de la population civile chrétienne qui leur montre les campements parce qu'ils ne connaissent pas la région. Et quand ils arrivent au niveau de ces campements, les éleveurs souvent ils sont armés, ils se défendent et il y a des dommages collatéraux.
Pour la coalition, ces allégations justifient la guerre contre l'UPC. Elle accuse même le gouvernement et la MINUSCA d'être complices de leur ennemi. Aboubacar Sidik est le porte-parole du FPRC.
Nous, à chaque fois qu'on libère une localité, il y a le soulagement total qui est là. Il y a la population qui se sent libre, enfin, depuis 3 ans. Allons voir au niveau des Bakala, du côté des Hippi, même Andashima. Les gens qui ont fui depuis 3 ans sont revenus dans leur maison. Donc, c'est un groupe de mercenaires qui sont là et nous sommes contraints de les chasser parce que, d'un autre côté, nous voyons que le gouvernement l'utilise pour nous combattre. Si le gouvernement fait ou encore utilise des groupes armés pour nous combattre, nous également, de notre part, nous continuons à nous défendre jusqu'au dernier degré.
Si ce conflit a des raisons économiques, l'aspect ethnique est indéniable. Quand un mouvement attaque l'autre, les représailles sont quasi immédiates, même à des centaines de kilomètres de là, contre la communauté dont il est issu. Goula et Runga d'un côté, Peul de l'autre. Le général Bala Keïta, commandant des casques bleus en Centrafrique.
On a constaté qu'il y a même beaucoup d'exactions, bon, de part et d'autre. Bon, tous là, ils font les mêmes choses. Hein. L'UPC et la coalition, c'est des gens qui n'ont aucune considération pour, disons, la population. Soit on tue ou on manipule la population justement pour notre cause. Donc quand vous avez vu à Hippi, vous avez vu, c'est des populations qui sont pratiquement prises en otage. Hein. Ils les utilisent comme otage, comme bouclier. Sinon, il faut les tuer. Mais les faits sont là. De part et d'autre, on est encore en train de tuer de pauvres civils. Et ces gens-là doivent répondre de leurs crimes actuels. Et surtout les chefs, ceux qui sont en train de donner des ordres, ceux qui sont en train de donner des moyens pour que les tueries continuent, ces gens-là, ils ne doivent pas échapper à la justice de demain.
Si Bambari reste un objectif pour la coalition, la ville est trop bien défendue par la MINUSCA pour un assaut frontal. Les combats se sont donc propagés dans les préfectures voisines, le Mbomou, autour des gisements miniers de Nzako et Bakuma, la Haute Koto, aux alentours de Bria, et la Basse Koto, le long de la frontière congolaise.
Tout en sécurisant Bambari, essayez aussi d'étendre notre action dans les autres villes ou d'autres villages, dans la Basse Koto et dans le Mbomou, pour voir un peu comment contrer justement cette offensive que la coalition continue à mener dans cette zone et qui se traduit toujours malheureusement par des morts et des déplacements de milliers de personnels.
La paix, tous les groupes armés en parlent, mais sur le terrain, les combats font toujours rage. Le processus DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, qui devra établir de quelle manière ramener les combattants à la vie civile, est au point mort. L'impuissance de l'État centrafricain face à ces groupes armés est criante et les discussions de paix initiées par l'Union africaine fin 2016 n'ont pas avancé. Concernant la justice, la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes les plus graves commis en RCA se met en place lentement. Les premiers procès ne devraient pas intervenir avant la fin 2018 si tout va bien. D'ici là, les chefs de guerre ne s'en cachent pas. Ils comptent bien obtenir des amnisties. La bataille de la Waka, un grand reportage de Pierre Pinto, réalisation Lorenzo Lacchesi d'Anne.
Musique du monde.